Il est 19h sur le 101.5 de Radio G, l'heure que vous voulez. Si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr, comme tous les lundis, tous les 15 jours, c'est l'heure de la case de Seb. Ce soir, on va vous parler de fin du monde, on va vous parler de baston, on va vous parler de démons, on va vous parler de général et de plein d'autres trucs. Attention, générique, sauf que j'ai mal... J'ai un peu perdu aussi. C'est la faute de Pierre Benoît qui me transmet sa poisse. Allez, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans cette nouvelle case de Seb. Ce soir, on va vous partager le meilleur du comics, du franco-belge et du manga. Pendant une heure, on va les propulser directement dans votre cerveau par le truchement des ondes radiophoniques. Voilà, bah, j'espère que ça va bien se passer. Je suis tout seul ce soir, mais c'est pas très très grave. En général, ça se passe plutôt bien quand même. Je ne me fâche rarement avec moi-même. Enfin, bref. Pour commencer, on va parler d'un petit truc qui n'est pas vraiment de la BD, mais quand même un petit peu. Il s'agit en fait de l'adaptation en jeu de rôle à jouer tout seul d'une BD qui est elle-même l'adaptation d'un roman. Donc, je résume. En fait, il s'agit d'un jeu de rôle solo dans le dernier magazine Casus Belli, le numéro 39, alors l'édition janvier-février 2022, n'est pas si en retard que ça, parce que le nouveau n'est pas encore sorti, et que j'avais un petit peu de retard dans mes lectures. Et en fait, il s'agit d'un jeu de rôle solo. Donc un jeu de rôle solo, souvent ça a le même concept que les livres dont vous êtes le héros. Alors, chez ceux qui ne connaissent pas, ça, je vous invite déjà à écouter les voix du scénarium demain de 22 à 23 heures, hein, parce que c'est quand même un petit peu la base du jeu de rôle. Et puis les jeux dont vous êtes le héros, je vais parler plus lentement parce que sinon je vais m'essouffler très très vite. En gros, vous imaginez un livre dont les paragraphes ne se suivent pas. En fait, tous les paragraphes sont numérotés. Et à la fin d'un paragraphe, on vous dit « Est-ce que tu veux faire ça, ça ou ça ?» Et en fonction de ce que tu choisis, eh ben, tu vas à un paragraphe numéroté différent. Là, dans ce numéro 39 de Casus Belli, on nous propose de jouer dans l'univers des Artilleuses, une BD qui est publiée aux éditions Dracou avec 3 tomes, si je ne me trompe pas. Et du coup, on va jouer dans le Paris, un Paris des années 20, un Paris des merveilles, qui est lui-même une adaptation d'un des romans de... J'ai perdu son nom, de Pierre Pével. Donc c'est vraiment sympa, c'est court, hein, c'est peut-être la seule chose qu'on peut lui reprocher principalement, mais si vous n'avez jamais fait de jeu de rôle, eh ben, n'hésitez pas à le faire, ça vous permet de découvrir non seulement l'univers des Artilleuses, l'univers de Pével, avec le Paris des Merveilles, mais également le jeu de rôle Chronique Oubliée dans sa version contemporaine, donc il y a un moteur maison des éditions Black Book Edition. Donc voilà pour la petite intro, j'espère que c'est des choses qui vous plaisent, parce que c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa de découvrir le jeu de rôle de cette manière-là, et ça peut vous donner une idée des opportunités que vous pouvez avoir avec le jeu de rôle. Quoi dire de plus ? Alors, je vous ai parlé... On va parler d'abord peut-être un petit peu jeunesse. Parce que effectivement, c'est des choses sur lesquelles je passe un petit peu rapidement parfois. Et vous allez voir que... Je suis désolé, c'est la chaise qui grince très très fort. Donc, on va commencer avec un petit livre jeunesse, avec un concours plein d'obstacles de Christine Warner, qui est publié aux éditions Rue de Sèvres. Alors, de quoi ça parle? Du coup, c'est un ouvrage qui est en couverture souple, qui est plutôt sympa. Et c'est un ouvrage qui fait quasiment 280 pages, 200... Un jour que je me le note, ça m'éviterait d'avoir aller chercher, 270 pages. Et ça nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Kate, qui a 12 ans, et qui a une passion, le cheval. Alors, je vous avoue que déjà, dans un premier temps, ça partait pas vraiment très bien pour moi, parce que je suis pas grand fan du cheval, et puis bon, les histoires sur les petites filles, c'est pas forcément mon kiff non plus. Mais je l'ai lu, et du coup, j'ai beaucoup aimé. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est l'histoire d'une petite fille qui a un problème, elle est en surpoids. Et pourquoi ça pose un problème? C'est surtout le regard des autres qui l'embête, le regard de son frère qui parfois peut être un petit peu agaçant, et puis le regard aussi des autres filles du club de cheval, puisque elle se consacre énormément au cheval, puisqu'elle aime ça et qu'elle aimerait bien faire des compètes, puisqu'en fait elle est super douée, donc elle a des compètes qui sont des compètes pour les plus jeunes, sur lesquelles elle va vraiment aller habituellement, et puis il y a des compètes un petit peu plus prestigieuses, dont une Black quelque chose, j'ai perdu le nom, désolé, si vous aimez les chevaux, vous allez savoir de quoi je parle. Et du coup, dans son club, elle va commencer à essayer de se consacrer à ça. Bon, je vais pas vous raconter tout l'ouvrage, parce que c'est pas vraiment le but non plus de l'émission, de vous spoiler et de vous empêcher de lire les albums. Mais Kate, elle va pouvoir, grâce au cheval, se concentrer, faire un retour sur elle-même, lier d'autres amitiés, et découvrir quelque chose de plus... Que son poids, en fait, à la rigueur, il faudrait peut-être qu'elle s'en fiche un petit peu. Donc, c'est facile à dire, hein, je suis tout à fait d'accord, mais c'est vraiment, vraiment quelque chose à prendre en compte, c'est votre poids ne définit pas ce que vous êtes. Ça définit l'apparence que vous avez vis-à-vis des autres. Mais ça ne détermine pas votre essence et qui vous êtes. Donc c'est une super BD, puisque on va aider les petites filles qui sont dans cette situation là en fait, à se sentir mieux pour accepter un petit peu leur corps et montrer que on peut, en se consacrant à d'autres choses, passer au-delà de ce qu'on peut percevoir de soi. J'avoue qu'au départ, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était pas gagné non plus, parce qu'effectivement, les histoires sur les surpoids, on en a beaucoup, mais là, on se focalise pas exclusivement dessus. On se focalise aussi sur le cheval, sur la maladresse que Kate peut avoir avec le cheval, et les frayeurs qu'elle peut se donner. Et du coup, c'est vraiment très très intéressant, et faut y aller. Graphiquement, je me rends compte que j'en ai pas parlé, on est sur une quasi intégrale bichromie, à part quelques petites touches de couleurs. On va jouer un petit peu principalement sur le bleu et blanc, et puis on a des touches de rose ponctuellement, principalement sur les onomatopées, qui collent un petit peu plus de peps, un petit peu de clash. On est sur un dessin qui est tout en rondeur, qui est vraiment efficace, qui marche bien, tout en rondeur, bon voilà, c'était pas un jeu de mots volontaire, mais ça fonctionne bien. Il y a un trait un peu comics, je pense que Christine Warner est d'origine américaine, j'ai pas regardé, oui, elle est née dans les montagnes de l'Utah, donc effectivement il y a un côté comics forcément qui vient tout seul de base. Donc voilà, n'hésitez pas. Je me rends compte que j'ai pas dû donner le titre. Ça s'appelle Un concours plein d'obstacles. C'est de Christine Warner. C'est publié aux éditions Rue de Sèvres. C'est un bel ouvrage. Si vous faites le ratio nombre de pages prix, honnêtement, c'est plutôt rentable. Et faut vraiment essayer d'y aller. C'est plutôt cool. Hop. On enchaîne avec autre chose, une autre salle, autre ambiance. Alors là, vous pouvez aller coucher les enfants. On reste chez Rue de Sèvres avec un ouvrage du label 619. Alors, si ça vous parle, le label 619, c'est un groupe d'auteurs qui publiait précédemment aux éditions Ankama, avant de décider d'aller publier aux éditions Rue de Sèvres. Ils publiaient toute une série qui s'appelait Doggy Bags, qui était des recueils d'ouvrages d'horreur. Et là, on recommence la même chose. Alors, c'est pas tout à fait Doggy Bags, même si c'est le même format, je ne sais plus parler, je suis vraiment désolé. Là, on a trois histoires. On retrouve un poster à la fin qui est différent. Il y a trois posters différents, un qui est consacré à chacune des histoires. Et en fonction de l'ouvrage que vous avez, vous avez un poster qui peut être différent de celui de votre copain de classe ou d'un autre lecteur. Ici, on va retrouver trois auteurs, un peu plus que ça, puisqu'on va retrouver Singelin, on va retrouver Run, on va retrouver Florent Modou, Gis Alberti et Mud, chacun aux commandes d'une des histoires. On est sur trois histoires qui sont des histoires, je dirais, de monstres. Là, je suis pas vraiment convaincu de moi, même si effectivement, si en fait on peut dire des monstres. Les trois histoires sont Devil's Key, qui va se consacrer sur un groupe de métal qui va se retrouver attaqué par des créatures infernales. Nous avons Monsieur Sato, qui là se consacre plutôt à un homme qui a fini par passer inaperçu et qui n'est pas décidé à rester inaperçu. Et puis She-Wolf and Cub, qui est une histoire de Masiko, qui est la maman de l'héroïne de Freak Squad, cher à Florent Modou, qui elle va rencontrer des créatures qui ont tendance à avoir du poil qui pousse quand on est en pleine lune. Alors, si vous aviez jamais lu les Doggy Bags, déjà c'est une grosse erreur, allez-y, c'est vraiment très très bien, vous pouvez picorer ces récits d'horreur de manière efficace, chaque artiste ayant ses pattes et sa façon de raconter des histoires. Mais si vous voulez débuter une nouvelle série, prenez Low Reader, c'est aux éditions Rue de Sèvres, label 619, et vous retrouvez ces concepts de récits d'horreur et d'histoires qui sont vraiment classe. Chaque artiste va vraiment avoir sa patte graphique il y en a que vous pouvez aimer, d'autres que vous pouvez ne pas aimer, mais ça fonctionne très très bien. C'est un ouvrage qui est très complet puisque vous avez aussi des petits encarts avec par exemple sur celui-ci l'anatomie d'un corbeau, de la discussion sur les rockstars qui sont décédés, le tri sélectif au Japon. Alors, vous avez l'impression que c'est disparate comme thématique, mais en fait elles sont toutes reliées aux histoires qui jonchent l'album, et c'est vraiment top en fait. Donc voilà, allez-y, les yeux fermés, c'est Low Reader, donc Low Rider, mais avec version écrivain, donc Low Reader, aux éditions Rue de Sèvres, label 619, Mud, Gira Alberti, je suis pas sûr de le prononcer comme il faut, Ron Singelin, Florent Modou. Donc c'est vraiment très très bon, c'est à avoir dans toute bibliothèque selon moi. Je vous propose de faire une petite pause musicale avec un groupe, une musicienne qui s'appelle Mosika, avec la chanson Sensitive sur le 101.5 de Radio G.
Scared too much. Tattoos hands around your throat. Won't leave me alone. I'm just sensitive. I'm just sensitive. Vulnerable, bitch. Deadly but delicate. I'm just sensitive. I'm just sensitive. Vulnerable, bitch. Deadly but delicate. I'm just sensitive.
Sensitive sur le 101.5 de Radio G, c'était Mothika. Je pense que je le prononce comme il faut. Enfin bref, on ne sait pas trop. C'est toujours la case de Seb. J'espère que vous passez toujours un bon moment, ma compagnie, et puis que vous les trouvez de saines lectures. Si ce n'est pas le cas, bah écoutez, restez avec moi, parce que j'ai d'autres lectures derrière. Si vraiment ce n'est pas le cas, bah, je ne sais pas quoi faire de plus pour vous. À part vous parler d'autre chose. Alors, je vais vous parler d'un... non, pas d'un ouvrage, mais de 5 ouvrages très, très intéressants. C'est une série qui a été publiée aux éditions Dupuis. Alors, je pense que mes infos sont pas toujours à jour, mais laissez-moi vous expliquer. Il s'agit de l'adaptation d'une série de romans concept. Alors, vous allez me dire, roman concept, qu'est-ce que c'est ton roman concept? Non, c'est pas ça un roman concept, ça c'est quand je tousse. Un roman concept, en fait, c'est une histoire qui a décidé d'être écrite à plusieurs auteurs. Là, en fait, il y a 4 tomes qui ont chacun été écrits par un auteur et le 5e tome qui a été écrit à plein de mains. Je vous laisse compter, chacun a 2 mains par 4 personnes, ça fait 8 mains normalement pour écrire le bouquin. Et cette histoire, en fait, chacun des tomes va raconter une partie de l'histoire et va... je me perds, je suis vraiment désolé. Pardon, chacun des auteurs en fait va raconter un petit bout de l'histoire et le 5e tome va regrouper toute cette partie d'histoire. Mais de quelle histoire tu nous parles, Sébastien? Eh bien écoutez, je vous parle de U4. U4, c'est le nom d'un virus qui a décimé une grosse partie de l'humanité. Et étrangement, en France, une tranche de la population a survécu. Cette tranche est composée d'adolescents de 12 à 18 ans, de mémoire, si je ne me trompe pas, entre 15 et 18 ans, qui ont mystérieusement survécu à ce virus. Alors pourquoi ? Ça, c'est une des grandes questions. Pourquoi ces enfants ont survécu ? Et pourquoi d'autres personnes également ont survécu, mais très peu de personnes en dehors de cette tranche d'âge a survécu ? Eh bien, cette saga, en fait, nous propose de découvrir ces quatre de ces enfants qui ont survécu, à savoir Stéphane, Jules, Corridwen, je vais y arriver, et Yanis, qui ont pour particularité, ces quatre enfants, d'être tous des joueurs d'un jeu qui s'appelle Warriors of Time. C'est un jeu en ligne dans lequel ils s'affrontaient, ils incarnaient des guerriers très très forts, très très puissants. Et juste avant la chute des réseaux, parce qu'effectivement quand il y a moins de monde sur Terre, à un moment les réseaux, les antennes, les téléphonies, tout ça, ça s'éteint. Et juste avant la chute complète des réseaux, ils ont reçu un message d'un des maîtres de jeu, un certain Chronos, qui leur donne rendez-vous sous la plus vieille horloge de Paris. Pour, accrochez-vous bien, un petit projet sympa, remonter le temps et empêcher le virus de se répandre. Alors bon, que vous y croyez ou pas, que ces enfants y croient ou pas, eh bien ils sont tous, à un moment ou à un autre, se sont dit « Tiens, je vais aller à ce rendez-vous pour peut-être déjà retrouver des personnes, peut-être remonter dans le temps pour ceux qui y croient, et découvrir au moins l'intérêt ». le but de cette chose-là. Alors chacun de ces enfants va avoir son propre parcours de vie, son point de départ, ses propres préoccupations face à ce virus U4, et on va pouvoir les suivre. Mais vous allez me dire, mais on commence par quel tome ? C'est ça la particularité de ça, de U4. C'est qu'en fait, vous pouvez choisir de commencer par Cory Dwen ou par Yanis ou par Jules, et d'enchaîner sur Cory Dwen ou Stéphane. Vous les lisez dans l'ordre que vous voulez. Chacun des quatre tomes d'origine est indépendant, et vous allez retrouver au cours de l'aventure et de l'histoire que vous allez lire des interventions d'autres personnages. Donc effectivement, il y a peut-être un ordre un peu plus idéal pour les lire, puisque si vous commencez un tome où il y a un personnage qui intervient, vous allez peut-être avoir envie d'enchaîner sur ce personnage-là, et ainsi de suite. Mais la conclusion globale, elle sera dans le cinquième tome, qui lui est à lire forcément après les quatre autres, qui s'appelle Chronos. Donc là où je dis que mes informations sont pas forcément toujours à jour, c'est que je sais pas encore si Chronos est sorti. Si c'est pas le cas, je vais le procurer très vite, parce que j'ai vraiment dévoré ces quatre tomes, puisque ça fonctionne très très bien. Alors, vous allez me dire, ouais, mais des post-apos, on en connaît plein, on en a vécu pas mal et tout. Bon, alors déjà, je vous rassure, il n'y a pas de zombies. Si vous aimez pas les zombies et puis vous considérez que le post-apo, il n'y a qu'une seule façon de le raconter, c'est avec des zombies, là, il n'y a pas de zombies. Donc, vous allez voir qu'il y a des choses à découvrir. Et puis, chacun des personnages est hyper intéressant, hyper touchant à sa façon. Entre celui qui va trouver un enfant plus jeune que lui, qui va se projeter en tant que grand frère pour protéger cet enfant-là, entre celle qui a du mal à assumer les relations avec son père et que son père peut-être a des réponses que tout le monde se pose, lecteur y compris, entre celui qui justement est gorgé de remords parce qu'il n'a pas plu enterrer sa famille, ou simplement entre celle qui est persuadée d'avoir une destinée hors du commun et que tout est lié quand on sait voir les signes. Quatre personnages complètement différents, quatre personnages dont le destin est lié, quoi qu'il arrive. Ça, de toute façon, c'est absolument certain. Je me rends compte que je ne vous ai pas parlé des auteurs. Là, contrairement à la série d'origine, donc dont elle est adaptée, tous les tomes sont dessinés, écrits par les mêmes auteurs. C'est un petit peu mon seul regret, c'est qu'on aurait pu pousser le concept un petit peu plus loin en essayant vraiment de faire quatre tomes différents avec des paires d'auteurs différents, et de finir avec un cinquième tome qui regroupait un peu tous les styles graphiques et les styles de narration. Je pense que ça aurait été, et je suis très conscient, je suis sûr que ça aurait été très compliqué, que ce soit en termes de planning ou en termes de création. Mais je pense que ça aurait pu valoir le coup d'aller le chercher jusqu'à ce point-là. Mais du coup, là, on a plusieurs auteurs. Donc, on a Denis Lapierre qui s'est occupé du scénario, de mémoire. Et j'ai un petit souci sur les personnages, sur les qui a fait quoi. Mais nous avons Denis Lapierre, Adrien Huelva et Pierre-Paul Renders qui livrent des ouvrages qui se lisent très très bien, qui sont vraiment très efficaces graphiquement. Le style demande un petit peu d'avoir lu quelques pages pour pouvoir s'y adapter, mais tout fonctionne bien. Graphiquement, j'ai trouvé que ça marchait bien. C'est un côté très jeune, donc pour au moins plaire au public le plus jeune, mais ça va pas rebuter un public adulte du tout. Donc c'est vraiment très efficace. Les couleurs sont plutôt agréables. On n'est pas sur des trucs hyper flashy, mais on se laisse emporter. Les ambiances sont bien gérées. Ça marche très très bien. J'ai pas beaucoup de défauts à y trouver, si ce n'est que parfois on peut avoir des petits soucis de rythme, mais encore c'est très très léger. Donc c'est vraiment un pur plaisir. Et chacun des personnages va vous captiver, vous inviter au voyage d'une manière ou d'une autre. La principale difficulté va être peut-être de commencer et de trouver le personnage qui va pouvoir vous guider dans cette histoire, puisque si vous commencez avec Stéphane, bah, peut-être que vous n'allez pas accrocher l'histoire, alors que si vous aviez commencé avec Yanis, bah, vous seriez parti complètement à fond dedans. Donc là, je vous laisse découvrir. Je vous donne un conseil quand même, ne vous arrêtez pas à un seul tome. Si vous n'avez pas aimé un tome, tentez-en un deuxième. Ça peut être qu'une belle idée, une belle histoire. Au moins pour voir la composition, ça marche vraiment très très bien. Donc c'est vraiment très très fort. Donc je vous redonne les références. Hein. Il s'agit de U4, donc il y a 5 tomes. Il y a Stéphane, Jules, Yanis et Cory Lewen. Je suis désolé, un prénom qui est complètement dingue et imprononçable pour un humain normal. Mais bon, enfin bref. Et puis le cinquième tome s'appelle Chronos. C'est publié aux éditions Dupuis. C'est de Adrian Huelva, Jean-Paul... Pierre-Paul Renders et Denis Lapierre, et c'est vraiment vraiment très très bien. Je le conseille quand même à des ados. Il y a un petit peu de violence, il y a des choses comme ça, pas les mettre entre les mains des publics les plus jeunes, mais vraiment vous pouvez y aller, c'est vraiment super super bien. Donc voilà, je vois pas quoi dire de plus. Allez-y, U4, édition Dupuis, 5 tomes, série complète. Donc vraiment c'est de la bonne, allez-y. Je vous propose de faire une nouvelle pause musicale. On va mettre un peu plus de fête dans vos oreilles avec la japonaise Klupo. Alors, je sais pas si c'est son groupe, non, je crois que c'est un autre nom. Avec le groupe Klupo et la chanson Pogo. Don't stop, we'll sing, peace and love. Small scale, big chance, time will show. It's simply can be done. Bang bang avec Klupo et la chanson Pogo. qui nous amenait droit au Japon. J'espère que vous avez bougé un petit peu vos fesses chez vous. Bah, c'était un petit peu le but. Donc voilà. Bref, je finis de dire des bêtises. On est de retour sur le 101.5 de Radio G. C'est toujours encore la case de Seb. Et du coup, bah, après une musique musicale, Non mais Sébastien, s'il te plaît, réveille-toi un petit peu. Après une musique d'origine japonaise, eh ben, on va retourner au Japon avec un petit peu de manga. Alors, de quoi on va d'abord parler ? Moi j'ai beaucoup de passion, j'ai une passion pour les bandes dessinées, bien entendu, mais j'ai aussi une passion pour le jeu vidéo. Encore une fois, je m'excuse de tousser. Mais qu'est-ce que j'aime avec le jeu vidéo ? Eh ben, j'aime beaucoup les jeux de baston. Et depuis ma plus tendre enfance, j'ai une passion assez immodérée pour une série de jeux vidéo qui s'appelle The King of Fighters. Une série de jeux vidéo complètement dingue qui regroupait un nombre assez impressionnant de combattants dans des triplettes. Je ne sais pas si on peut vraiment dire ça. Où le but était avec un groupe de trois personnages de défoncer méchamment les trois personnages du groupe adverse pour progresser et pour devenir enfin le King of Fighters, le personnage le roi des bastonneurs, si on peut le traduire dans la langue de Molière. Quelle n'a pas été ma surprise et ma grande joie de découvrir aux éditions Pika d'avoir l'adaptation de The King of Fighters A New Beginning qui vient de sortir quasiment date pour date avec la sortie de King of Fighters 15, je suis pas sûr d'être sûr de nouveau, ouais c'est ça, King of Fighters 15 qui vient de sortir, donc ça coïncide et du coup on peut découvrir soit par le jeu vidéo et se donner envie de le lire, soit justement s'initier au jeu vidéo King of Fighters, pour ceux qui ne connaissent pas la franchise, grâce à cet ouvrage, ça peut être limite un livret le petit livret que vous trouvez à l'intérieur des jeux vidéo qui vous donne envie de jouer, vous êtes là-dedans. Alors on peut me dire, mais Sébastien, non, c'est un manga, donc forcément il y a une histoire. Ben oui, il y a une histoire et je n'ai pas dit le contraire. Il faut savoir qu'au cours de ces... j'ai même plus le nombre de pages... Les 240 pages. En fait, on va vous faire découvrir complètement l'univers de King of Fighters. Un univers dont l'histoire a évolué au fil des éditions. Donc, si c'est King of Fighters 15, c'est que c'est la 15e version de King of Fighters. Oui, pas tout à fait. C'est un peu plus compliqué que ça. Puisque King of Fighters regroupe des jeux vidéo de plein de licences d'origine. Donc, c'est un peu plus compliqué. Donc, on va vous présenter, en fait, une personne qui a créé ce tournoi et qui a recruté des gens pour devenir le roi des bastonneurs. Et il organise un tournoi de manière très très grandiloquente et on va commencer par vous présenter les personnages. Il y a 15 équipes au total, 15 équipes de 3 personnes. Ça fait quand même plein de monde. Je suis désolé, les maths, c'est pas mon truc, mais ça, vous, ça fait bien. Et on va découvrir dans toute la première partie une présentation personnage par personnage des futurs protagonistes et antagonistes du manga et du jeu vidéo. Puisque du coup, on va avoir le même nombre de personnages à peu ou prou que dans le jeu vidéo. Donc on va découvrir par le menu qui vont s'affronter et quelles sont aussi les petites bisbilles, petites particularités de chacun des personnages. Et puis on va enchaîner avec un premier combat, un premier triptyque de combat et pas n'importe lequel, par certainement ceux qui sont des personnages les plus iconiques de King of Fighters. Je vous laisserai les découvrir, je vais peut-être pas tout vous révéler non plus, ce serait pas forcément très rigolo. Donc c'est un ouvrage qui est assez dense, mais si vous connaissez King of Fighters, vous allez adorer, puisque du coup on va vous remontrer les mouvements iconiques de certains personnages, on va vous remonter les coups spéciaux les plus fabuleux, dessus on ne lésine pas. Et puis on va, je vous disais que ça pouvait servir de mode d'emploi pour pouvoir jouer, puisqu'on va également vous donner des coups spéciaux sur les pages de chapitre. On va vous présenter un personnage et un coup spécial, et en vous donnant les commandes pour pouvoir le réaliser dans le jeu vidéo. Donc c'est plutôt fun et c'est plutôt cool. Donc ça c'est gadget hein, pour ceux qui n'ont pas prévu de jouer aux jeux vidéo, mais je trouve ça un lien plutôt bien géré et qui marche très très bien. Bon, vous vous doutez bien que si on se contentait de regarder des combats de gens, et ben on serait dans un Dragon Ball, et encore c'est très réducteur ce que je suis en train de vous dire. Et bien là, y aura des petits rebondissements, mais je vais pas vous révéler non plus. Graphiquement, à quoi ça ressemble? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est joli? Les personnages sont très fidèles à ceux qu'on peut trouver dans les comics. Je pense qu'on aurait pu peut-être pousser un petit peu plus loin le curseur sur certains, mais ça marche vraiment très très bien. Tous les personnages sont facilement représentés et facilement reconnaissables. Et le côté... un peu déluré, un peu sexy de certains personnages marche très très bien. Alors attention, hein, c'est féminin ou masculin, il y a des gens dénudés et torse nu des deux côtés, enfin pas torse nu féminin, mais voilà, bref, je vous laisserai regarder. C'est très décousu ce soir, hein, je suis désolé, mais voilà. Donc ça marche très très bien, c'est des personnages qui sont quand même caricaturaux, hein, mais avec toujours ce degré retravaillé un petit peu plus loin pour avoir des personnages qui sont très emblématiques, très... Quand vous jouez à King of Fighters ou quand vous allez lire King of Fighters, il y a forcément un personnage dont le design va vous dire « Ah, lui, je le kiffe, il est trop bien, il est trop balèze, même si c'est un ennemi. » C'est ça qui fait que King of Fighters, c'est vraiment top. C'est que chacun peut identifier et apprécier un personnage parce qu'il a une surreprésentation caractéristique et qu'on va pouvoir s'identifier ou simplement kiffer le personnage dans sa façon d'être. Et ça rend le truc absolument dingue, vraiment top. Donc voilà, n'hésitez pas, je vais redonner les références. Du coup, c'est The King of Fighters, c'est basé sur un jeu vidéo de SNK et c'est un manga qui est fait par Kyutaro Azuma, c'est publié aux éditions Pika. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment trop trop bien. Et puis jouer aux jeux vidéo aussi si vous voulez faire entre la sortie de 2 tomes. J'ai oublié de vous le dire, il y aura 6 tomes au total sur cette série, donc c'est pas une série qui va être très très longue, mais il y aura quand même un nombre de pages assez conséquent, parce qu'effectivement là on est sur 240 pages, ce qui est plutôt bien pour un manga, et c'est plutôt dense. J'avais un autre manga dont je voulais vous parler, un manga qui s'appelle Le Souffle des Légendes, qui est publié aux éditions Komiku en France. Alors, je vais essayer de vous donner le titre en japonais, c'est Sekai no Ate Imo Kaze wa Fuku. On pourrait traduire en anglais par The Wind Blows to the End of the World. C'est classe hein, quand même comme ça. Donc je préfère être honnête avec vous, je ne l'ai pas encore fini, mais je suis resté tellement scotché dedans que j'ai été obligé de m'interrompre pour pouvoir faire une émission de radio. Donc je vous en parle, ça veut dire que j'ai quand même vraiment beaucoup beaucoup aimé. L'auteur c'est Azumi Tsukasa. Comment dire ? On suit deux personnages qui font partie d'une organisation qui est globalement très mystérieuse, qui s'appelle le Sanctuaire. On a l'impression que c'est une organisation non gouvernementale qui vise à maintenir un petit peu la paix dans ce monde. Et les deux personnages qu'on va suivre, Lal Viento, qui est un archiviste pour le Sanctuaire, et son assistante, Gillette, je ne suis pas sûr de le prononcer, Crashed, qui est à la fois son assistante et son garde du corps. Et leur particularité à eux, c'est que ils vont se déplacer, voyager à travers le monde pour vérifier des légendes locales et les compiler dans un ouvrage. Ce sont des reporters dont le but n'est pas d'intervenir dans les situations qu'ils vont découvrir, mais bien de les de documenter des choses existantes. Alors, bien sûr, ça va pas forcément se passer exactement comme c'était prévu, puisqu'ils vont à chaque fois tomber sur des situations plutôt compliquées. Mais c'est vraiment sympa, c'est vraiment très très joli, et on est vraiment captivé par les situations dans lesquelles ils arrivent. Et puis si vous êtes amateur de légendes, d'histoires qu'on se transmet de bouche à oreille, ça marche très très bien, puisque là ils vont se confronter à des histoires qui peut-être ont des fonds de vérité, quasiment toujours, vous allez voir, mais c'est vraiment très très bien. Graphiquement, en plus, c'est vraiment super joli. Il y a pas mal de décors, il y a des créatures un peu fantastiques. Hein. Les légendes en tant que telles sont des créatures fantastiques principalement. Et les créatures sont très bien rendues. Il y a un côté très dynamique. Le personnage principal a un côté à la fois cabot et enjôleur qui le rend à la fois aussi agaçant que fascinant. On sent qu'il a des capacités un petit peu particulières. Et puis il y a des personnages qui lui disent, voilà, on sait que tu te fais... Ah, bref, je ne vais pas vous spoiler. Surtout que moi, je n'ai pas été très très loin pour l'instant. Enfin, j'ai fait la moitié quand même. Et ça marche très très bien. Son assistante a un côté très, très particulier. Ce n'est pas une secrétaire comme on imagine et comment on va dire l'imaginaire collectif a pu nous habituer à avoir des secrétaires dans les mangas. Ça donne un personnage qui est quand même assez haut en couleur et qui est vraiment vraiment top. Donc voilà, moi je vois pas quoi faire de plus à part vous conseiller de lire Le Souffle des Légendes, parce que c'est vraiment très très beau. C'est une histoire qui est captivante avec plein de petits bouts de secrets. Je pense qu'on n'a pas fini d'en voir. Pardon. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul tome. Donc, n'ayant pas fini ce tome-là, je ne sais pas s'il y a un cliffhanger à la fin ou si c'est un one-shot. J'ai peu de chance. Je pense que ce sera quand même une série qui va continuer. Et ça marche vraiment très très bien. C'est très beau. Même si moi je ne le lis qu'en numérique pour l'instant. En tout cas, c'est vraiment une belle histoire à lire, et puis à la fois scénaristiquement parlant et graphiquement. Donc voilà, je vous redonne les références. Il s'agit du Souffle des Légendes. C'est publié aux éditions Komiku et c'est de Azumi Tsukasa. On va faire une dernière pause musicale sur le 101.5 de Radio G. Vous savez bien que ma troisième passion après la BD et le jeu vidéo, c'est la musique métal. Et puis je ne pouvais absolument pas passer outre le dernier morceau de Rammstein qui est sorti il y a quelques jours avec le morceau Zigzag. Und wir liften das Gesäß.
der Sonne. Zick, zack, zick, zack, schneid das ab. Tick, tack, tick, tack, du wirst alt. Deine Zeit läuft langsam ab. Wer schön sein will, der muss auch leiden. Aus und weg und abschneiden. Nadelfaden stell ich, doch ohne Schmerzen geht es nicht.
Und ist das dein Ernst? Hör mal, guck mal, wie das aussieht. Bring das in Ordnung. Sieh zu.
Je vous laisserai découvrir la suite de Zigzag de Rammstein, bah, que ce soit dans leur dernier album ou encore par le clip, qui est un clip plutôt fabuleux, qu'on pourrait croire un hommage au frère Bogdanov. Enfin bref, je vous laisserai le découvrir par vous-même. C'était Zigzag sur le 101.5 de Radio G. C'est toujours la case de Seb. J'espère que vous passez toujours un bon moment. Si vous passez un mauvais moment, je ne sais pas pourquoi vous continuez à m'écouter. Bref, je vous aime toujours, chers auditeurs, et je suis toujours là. Bref, je délire ce soir, c'est un peu, bref, en freestyle. On a parlé du souffle des légendes, on a parlé de légendes, et je voulais vous parler d'une autre BD que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimée, qui s'appelle simplement Fang, chasseuse de démons. C'est de Joe Kelly et Nico Henrichon, c'est publié aux éditions Humanoïdes Associés, et c'est vraiment un gros kiff. Donc, pour deux raisons. Non seulement c'est très très joli, le dessin de Nico Richon est complètement dingue, je pense que c'est de la couleur directe, c'est du crayon, les couleurs sont belles, il y a un travail, il y a de la matière, il y a beaucoup de choses, je ne sais pas comment vous le décrire. Et en plus on est sur un scénario qui est plutôt, plutôt sympathique, même si on a l'impression qu'on a déjà vu beaucoup de scénarios similaires, mais là on arrive à avoir quelque chose qui est vraiment qui captive vraiment un peu mal. Bah, de quoi ça parle? Parce qu'effectivement, ça parle d'une petite renarde qui s'appelle Fang, qui a l'air de... Donc c'est un monde avec des animaux anthropomorphes, mais aussi des humains. Et cette petite renarde, Fang, à l'apparence somme toute chétive et moitié clodo-esque, si on peut le dire, va se déplacer à travers ce monde qui rappelle fortement le Japon médiéval. Et elle va se retrouver confrontée à des créatures, à des démons qui semblent hanter les villageois alentour, et les villages et les villageois alentour, et elle va commencer à les défourailler de manière plutôt violente et plutôt sanglante. Alors il faut savoir que les démons, ils se laissent pas vraiment faire, ils sont plutôt bourrins, énormes et très très méchants, et la représentation qu'en fait Nico Henrichon est elle aussi très très intéressante, et à l'aune des dégâts que ces créatures peuvent faire. Et on suit cette petite renarde qui vit un petit peu en paria dans un monde où les créatures ont plutôt du mal à être à collaborer ensemble, ce qui fait que ça devient un petit peu compliqué, non seulement pour elle, et on va se rendre compte très vite qu'elle n'est peut-être pas simplement qu'une renarde, que peut-être il y a quelque chose un peu plus loin en elle. Je vous laisserai découvrir. Mais du coup, ça marche très très bien. On se projette très facilement dans cette histoire. Peut-être simplement parce qu'effectivement, on a l'impression que c'est une histoire qu'on connaît. On en connaît les codes, hein, de ce personnage qui va lutter contre des créatures qui sont un petit peu presque de la même famille qu'elle. Et on se laisse projeter aussi dans cet univers graphique qui est vraiment dément, qui est vraiment très poussé, avec comme je le disais tout à l'heure, des couleurs qui marchent très très bien. Une façon de travailler à la fois entre le comics et le franco-belge, notamment par un usage des gouttières qui peut basculer dans le noir sur certaines cases pour renforcer quelque chose, ou vraiment rajouter quelque chose de plus. Il y a une patte, il y a vraiment un côté graphique très très poussé dans son dessin, et ça rend vraiment très très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à le découvrir, vous serez dépaysé. Je vois, enfin moi j'aimerais bien faire un univers de jeu de rôle là-dedans, voilà, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc si jamais les humanoïdes associés ont envie de faire ça, ben n'hésitez pas, hein, je peux peut-être vous mettre en relation avec des gens. Bref, le geek qui est en train de faire son placement produit. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment très très bien. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul tome. Le deuxième tome devrait arriver dans le courant de l'année, si je ne me trompe pas. Ça devrait arriver normalement assez bientôt. Donc une série à suivre, vraiment. Fang, chasseuse de démons aux humanoïdes d'associés sur un scénario de Joe Kelly et Nico Richon. Ouais, vous pouvez y aller, c'est vraiment très très bien. On va faire un peu plus terre à terre maintenant, avec un album qui est publié aux éditions Delcourt, qui est tout frais, qui est sorti le 30 mars. On parlait là, il y a 15 jours de Gaulle, du putsch qu'ont pu faire les généraux à Alger. J'ai perdu les dates. Je suis peut-être très très nul en histoire. Là, on parle un petit peu dans cet album-là, qui s'appelle sobrement Tuer de Gaulle, qui est des auteurs Simon Strins, je ne suis pas sûr, au scénario, de Munch au dessin, et de Scarlett qui doit être à la couleur. C'est pas bien de ne pas les mettre sur les. Voilà, Scarlett à la couleur, qui parle un petit peu des conséquences, en fait, de ce retour du général de Gaulle à la vie politique suite à ce putsch en Algérie française. En fait, bah, il va s'attirer, le bon vieux général va s'attirer pas mal d'animosité de certaines personnes, dont l'OAS, l'organisation pour l'Algérie française. J'ai perdu le nom, je suis désolé. Quand je vous dis que je suis nul en histoire, si vous êtes fan d'histoire, n'hésitez pas à me rejoindre, vous pourrez compléter lire les livres historiques et apporter quelque chose de plus précis que ce que moi je ne suis capable de le faire, même après avoir lu un album qui en parle. Et du coup, on suit en fait c'est la création d'un attentat visant à tuer le général de Gaulle, simplement pour lui faire payer ça, et puis créer un nouveau putsch. L'attentat le plus connu, certainement celui du petit Clamart, qui sera sans doute à l'ordre du jour dans le tome 2, puisque c'est une série qui va être en deux tomes, en deux volumes. Comment dire ? C'est une histoire, c'est une intrigue, un imbroglio politique avec des gens dont moi je ne connaissais pas du tout l'existence. Je ne connaissais pas forcément les rouages ni les ministères ou les choses qui étaient les engrenages politiques qui étaient en jeu dans cette situation-là. Faut savoir que moi j'étais pas né, hein, c'est en 62 et 61 qu'auront lieu ces deux attentats. Et en fait on découvre comment ces groupes vont se rencontrer, se relier pour pouvoir organiser les attentats vis-à-vis du général. Donc on reste vraiment passionné, parce qu'on sait quand même la finalité de ça, mais comment ils s'y sont pris, c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on aurait que ce que moi j'aurais imaginé. Juste des gens qui étaient complètement isolés et qui se sont dit tiens, lui on va le dessouder. Non, il y a quand même une organisation beaucoup plus complexe que ça, et puis aussi des personnes impliquées dont on je pense ne sait toujours pas vraiment qui a pu toutes les personnes qui étaient impliquées dedans. Enfin, ça, c'est l'histoire qui pourra nous le dire ou ne nous le dira pas. Mais c'est plutôt sympa. Graphiquement, on est sur un dessin qui est, je ne vais pas dire classique, parce que on a du cadrage qui est plutôt plutôt dynamique, mais on va retrouver la patte de dessin franco-belge un peu plus classique, mais ça nous emporte. On est vraiment dans les années 60, l'ambiance se pose bien sans forcément nous empêcher d'y pénétrer en restant trop situé. Les situations sont plutôt bien amenées, bien décrites, et on a des quiproquos dans lesquels on est vraiment captivé. Des fois on se dit il se passait à ça quand même de déjouer tout ça, donc c'est vraiment c'est vraiment un bon moment à passer. Et puis une envie de découvrir un peu plus ces histoires et puis les tenants et les aboutissants de ces attentats ou des personnes qui y ont été impliquées. Voilà. Donc, si vous aimez l'histoire et si vous avez envie de vous plonger un peu plus profondément dans l'histoire du général de Gaulle et puis des suites l'Algérie française, allez-y, c'est vraiment très très bien. Si vous aimez pas l'histoire, bon, je pense que ça peut ne pas vous passionner, mais c'est suffisamment bien décrit pour que vous puissiez vous embarquer dans la petite histoire de la grande histoire, comme on peut dire. Et c'est plutôt passionnant et c'est plutôt captivant. Et c'est bien quand c'est bien fait comme ça, de se laisser emporter par les auteurs. Je vous redonne les références. Il s'agit de Tuer de Gaulle, c'est de Trince, Munch et Scarlett. C'est publié aux éditions Delcourt et c'est vraiment tout frais, puisque c'est sorti le 30 mars dernier. Et c'est une histoire qui sera complète en 2 volumes. Voilà. That's all, folks. Vous venez de l'entendre, c'est Porky qui signale la fin de l'émission. Et puis c'est mon fauteuil qui grince toujours. Je pense que dans quelques instants, vous retrouverez des gens qui ont un gros bazar et qui mettent le gros bazar. Je sais pas, normalement, ils sont toujours en train de faire coucou à la fenêtre à cette heure-là. Mais peut-être que non, pas ce soir, je ne sais pas. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je peux vous faire un petit retour des références qu'on a abordées ce soir. On a parlé de Tuer de Gaulle aux éditions Delcourt, de Trince, Munch et Scarlett. On a parlé du Souffle des légendes aux éditions Komiku. On a parlé de King of Fighters, A New Beginning aux éditions Pika. On a parlé d'une course d'obstacles. Un concours plein d'obstacles de Christine Warner aux éditions Rue de Sèvres. On a parlé de U4 aux éditions Dupuis, de Adrien Huelva, Pierre-Paul Renders et Denis Lapierre. On a parlé également de Low Reader aux éditions Rue de Sèvres, de Mud, Gisèle Berti, Ron Saint-Gelin et Modou. Et puis on a parlé, je crois que c'est à peu près tout de ce qu'on a parlé. Si on a parlé de Fang, de Nico Henrichon et de Joe Kelly aux éditions Les Humanoïdes Associés. Voilà, je vous en parlais il y a 2 secondes, ils sont en train de faire coucou à la fenêtre. Si, tu fais coucou. Donc ils vont arriver dans quelques instants pour vous régaler les oreilles avec plein de bonne humeur et de petits cris bizarres comme ils savent les faire. un jour on fera un truc ensemble, je suis sûr. C'est depuis le temps qu'on se le promet, il va falloir qu'on se cale une date. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dans 15 jours. Et en attendant, n'oubliez pas de lire. À défaut de savoir parler, ça rend intelligent, il paraît.
Ah ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? Mais c'est fini. Rentre chez toi.
Everything went back to how it was, but nothing ever felt right. Smile.
Ha ha ha!